Salut tout le monde, ici Richard et Déborah sur Radio Alplab, une radio des élèves du projet Alplab de l'école secondaire de Béthusy à Lausanne. Une radio de la montagne en plein cœur de Lausanne. Alors, comment tu vas Déborah ?
Bah, je suis juste ultra stressée et heureusement que vous ne voyez pas parce que je dois avoir une de ces têtes.
En effet. Bon, soyons sérieux. Quel est le thème du jour ?
Bah, aujourd'hui on a la chance d'avoir 3 thèmes.
Non, mais ils ont rien fait les autres alors ?
Comme d'habitude, quoi. Et ils laissent tout le vendredi.
Bah, c'est un peu comme les profs. Ils disent toujours répartir les tests sur l'année et on se retrouve à faire 200 tests juste avant la fin du semestre.
Et je pense que beaucoup d'auditeurs savent de quoi on parle. Enfin bon, on a quand même 3 thèmes à présenter. Donc, il y a l'interview de l'agriculteur. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler son nom ?
Ah, je vois que Monsieur Zosso est sur son téléphone. Et je rappelle qu'il est interdit d'utiliser son téléphone en classe. Et je parle à nos élèves parce qu'ils nous écoutent dans notre classe. Parce que je sais qu'il y en a qui les utilisent quand même.
C'est sûr. Bon, l'agriculteur s'appelle donc Olivier Zuffray, qu'on écoutera dans quelques instants. Il y a aussi l'interview de Marie-Thérèse Sangras, la directrice WWF Valais. Donc, on va parler de la terre et de la nature. Et pour finir, notre propre interview.
Quoi ? On va se faire interviewer ?
Oui, tu te rappelles pas ? Ça montre un peu ta concentration pendant Alplab.
Ouais, bon, on vous laisse avec une petite musique et on se retrouve après pour vous présenter le parcours du jour.
Time goes by, so slowly, 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 time goes by, so slowly.
C'était Hang Up de Madonna. Et je vais laisser Richard nous présenter le parcours de notre dernier jour.
Merci. Je me souviens pas trop bien, mais il me semble qu'on était partis des cabanes de Voilan pour prendre un bus qui devait nous amener à Vissois. Normalement, on aurait dû faire ça à pied, mais on était tellement crevés que notre prof a eu pitié et grâce à notre super guide Pascal, on a pu avoir un bus spécial. Et nous avons fait l'entretien avec le directeur de l'office du tourisme et on a repris le car pour aller à la gare de Sierre. On a pris le train jusqu'à Sion pour l'interview de Sangras, directrice du WWF, qu'on va écouter tout à l'heure. Et finalement, on a pris le train pour rentrer à Lausanne.
Mais on n'a pas une chronique là-dessus ?
Oui.
Bah écoutons-la.
Vendredi 29 août 2014, nous nous sommes levés à 7h30 du matin. Puis nous avons déjeuné comme tous les matins de la semaine. Nos affaires étant déjà prêtes, nous avons quitté la cabane de Voilan. Sans oublier de remercier Antoinette qui nous a accueillis les bras ouverts.
Descendu une quarantaine de minutes, puis avons rejoint un parking où se trouvait un taxi-bus. Nous sommes arrivés à Anniviers et nous sommes allés à l'office de tourisme. Deux personnes ont interviewé le directeur de l'office du tourisme d'Anniviers.
Ensuite, nous avons pris le bus jusqu'à la gare où nous avons pris le train jusqu'à Sion. Nous nous sommes rendus au musée Sciences et Culture et avons rencontré la directrice du WWF, Marie-Thérèse Sangras. Pour finir, nous sommes rentrés à Lausanne en prenant le dernier train de la semaine. Nous étions tous contents de rentrer chez soi pour prendre une bonne douche.
Et on reprend l'antenne et on vous propose un petit jeu.
Alors, ouvrez bien vos oreilles, car vu qu'on est à la radio, on va vous faire deviner des bruits.
Et vous pourrez nous répondre en ligne sur notre page Facebook. Pour une fois que vous pouvez aller sur Facebook pendant les cours, faut profiter.
À vous de jouer.
L'explication pour les jeux de son. Alors, vous allez entendre un son quelconque qu'il faudra essayer d'identifier. Après une petite réunion de classe, envoyez-nous votre réponse par message.
Alors, vous avez deviné ? C'est quand même pas bien compliqué. Et je vous dis pas combien de reprises on a dû s'y reprendre pour l'enregistrement. La classe d'hier a deviné. Pour vous, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais revenons à nos moutons. Enfin, dans ce cas-là, plutôt à nos vaches.
C'est le cas de le dire.
Alors, la montagne et l'agriculture et les changements climatiques, c'est un lien pas forcément évident. Mais comme c'est la nature et le cycle de l'eau qui vont être le plus touchés par le changement climatique, c'est assez évident que les agriculteurs vont être touchés. Et ils doivent peut-être avoir quelque chose à nous dire d'intéressant sur le sujet.
Mais il y a des paysans en montagne.
Toi, tu regardais vraiment que tes pieds en marchant. Hein. Tu crois que toutes les vaches qu'on a vues en marchant, elles sont sauvages? Des vaches sauvages, tu t'imagines?
Ouais, bon, ça va, ça va.
En fait, sans paysans, pas de paysage. C'est un peu eux qui rendent belle notre montagne. Mais on va l'écouter. Et je précise que l'interview a été faite jeudi.
Pourquoi c'est à nous de nous occuper de ça?
Parce qu'on s'occupe toujours de tout.
C'est pas faux. Bon, on va vous laisser écouter l'interview Katina et Jeanne. On fait pour vous et on se retrouve après. Whole lot of love.
Bonjour, alors aujourd'hui on va interviewer Olivier qui est agriculteur agrimens. Alors est-ce que vous observez des changements dans le climat en relation avec votre travail par la nature et par les animaux?
Dans le climat, je pense que c'est un peu partout. La Terre, ils disent qu'il y a le réchauffement climatique cette année, on ne sait pas si c'est le cas. Je crois que c'est un peu cyclique, il y a des années où ça sera sec, des années où ça sera humide. Nous ce qu'on remarque plus c'est l'avancée de la végétation chez nous. C'est plus l'avancée de la forêt parce que le métier d'agriculteur c'est un peu perdu en montagne. Donc les gens ils ont délaissé ça pour faire un peu de la construction ou autre chose. Donc ouais, il y a beaucoup de terrains qui ont moins été entretenus puis qui s'est venu en forêt.
Et comment s'est développée la paysannerie en montagne?
Le milieu a un peu été délaissé. Il y a quelques-uns qui se sont mis ensemble pour faire des grandes étables, pour avoir plusieurs propriétaires dedans. Et puis de là, ça a continué un peu d'agriculture, mais je crois que ça a toujours existé ici.
Et donc si vous deviez faire un bilan du développement de l'agriculture et de l'élevage de la région aujourd'hui, quelles ont été les erreurs, les bons choix, les incertitudes qui restent?
Par rapport, comme je dirais, à nos anciens, ce qui a sauvé l'agriculture, donc en tout cas au Val d'Anniviers, ça a été de justement regrouper plusieurs propriétaires dans une même écurie.
Et quel est le rôle des paysans de montagne par rapport à la nature?
Alors nous, ils nous appellent un peu les jardiniers du Valais parce que bah c'est sûr qu'on est dans un canton touristique. Donc quand vous venez, comme aujourd'hui qui fait beau, que vous voyez que les prairies sont vertes, c'est joli, fauché, entretenu, c'est quand même plus... Ça tape plus à l'œil pour le touriste qui vient ici passer son séjour que si vous avez des arbres partout à moitié en bas... Donc du fait qu'on met nos bêtes sur l'alpage, ça entretient aussi, entre guillemets, les pistes de ski. Donc on contribue, je dirais, on est au bas de l'échelle du tourisme un peu.
Est-ce que ça a évolué dans le temps et comment ce sera dans le futur, vous pensez?
Il y aura toujours des agriculteurs, mais c'est vrai qu'on a l'impression des fois que... Ils ont plutôt tendance à vouloir faire des grandes entreprises et puis plus avoir ces petits producteurs. Et puis je pense que c'est ce qui fait vivre chez nous, c'est ces petits... petites gens qui ont leur petit coin de terre, qui ont... parce que en Valais c'est quand même le 80% des agriculteurs ne sont pas professionnels.
Par rapport au développement de la région dans le futur, comment se passent les rapports entre ceux qui vivent du tourisme et ceux qui vivent de l'agriculture ou de l'élevage, et ceux qui vivent peut-être un peu des deux ?
En tout cas, si je parle du Val d'Anivier, c'est un rapport qui se passe bien, parce qu'on est aidé par la commune. Donc après, le tourisme, ils ont compris qu'avec la race des reins et les combats, on pouvait faire quelque chose. Donc maintenant, par exemple, quand on monte les vaches le premier jour à l'alpage, il y a une grande fête qui est organisée. C'est l'Office du tourisme, la Société de développement de Grimans qui s'occupe de ça. Et puis, tout le monde a gagné quelque chose, hein. Soit ceux du tourisme, soit nous. Mm-hmm. Si nous, on entretient, on est aidé. Et puis, comme nous, on entretient, les gens qui vivent du tourisme, ils ont quelque chose de beau à présenter aux touristes. Donc, c'est... à mon avis, complémentaire ici.
D'accord. Comment est-ce qu'on peut à la fois utiliser la nature et la protéger ?
Moi, je pense que à travers ce qu'on fait, donc la fauche ou on met pâturer nos bêtes dans les parcs, je pense qu'on entretient la nature. On fait un peu les jardiniers, je pense, quand même. C'est ça qui fait. Après... il faut savoir aussi la respecter, pas vouloir faire des trucs à outrance, vouloir tout déboiser. Voilà, il y a quand même quelque chose à garder aussi, mais je crois que nous, on a beaucoup de respect pour la nature. Enfin, elle nous fait vivre, donc on la respecte.
J'espère que vous aurez appris plein de choses sur ce métier qui n'est pas forcément facile.
Absolument. C'est beaucoup de travail.
En tout cas, il faut avoir du courage et aimer se lever tôt. Ce qui n'est absolument pas mon cas et je pense que ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui nous écoutent.
Ce n'est pas mon cas non plus. Bon, eh bien on va vous laisser apprécier la musique et on revient parler de la prochaine interview.
A red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
C'était Paint in Black de Vanessa Carlton. Bon, je vais donc laisser la parole à Déborah qui va nous parler de l'interview qu'elle a donnée sur le VVF.
Eh ben merci.
Bon, je te rends là pareil.
Alors on s'est rendu au musée de la nature de Sion pour parler à Sangra, directrice du VVF, qui nous a consacré un peu de son temps pour nous parler du VVF. On a pu, avec Lucinda, l'interviewer.
On doit quand même vous dire qu'on était bien bien crevés pendant cette dernière interview. Mais après avoir étudié les barrages, les glaciers, le climat, les roches et le tourisme, on ne pouvait quand même pas passer à côté de la protection de l'environnement. Car c'est quand même un peu le but de notre projet.
Donc, nous voilà au musée, avec tout notre matériel d'alpinisme sur le dos. On va donc vous laisser suivre l'interview. Bonne écoute !
Alors, quelles sont les problématiques climatiques qui touchent les Alpes pour les activités humaines et pour la nature, animale ou végétale ?
Alors, les activités climatiques, c'est ce qu'on appelle le réchauffement du climat, dont il n'y a plus vraiment de doute dans la communauté scientifique, à part quelques contestataires qu'elle est maintenant avérée. Le grand souci des organisations environnementales et d'ailleurs de l'ensemble de la planète, ça a été de ne pas dépasser une augmentation de 2 degrés, parce qu'on sait que plus de 2 degrés, ce sera vraiment très dur à assurer le changement économique pour la planète. Ici en Suisse, il y a des problèmes liés aux éboulements de terrain, liés aux fortes crues, aux précipitations. Il y a des problèmes liés aussi au réchauffement, par exemple, à la remontée des neiges. Aujourd'hui, on voit que les domaines skiables qui sont en basse altitude souffrent. Il y aura aussi un problème par rapport à l'irrigation pour l'agriculture. L'accès à l'eau va devenir, même en Suisse, un peu plus problématique, notamment pour les agriculteurs. Et puis, il y a des problèmes très très importants pour la faune et la flore, parce qu'effectivement, on a le changement climatique induit des changements dans la végétation qui va fleurir plus tôt. Les espèces ne sont pas encore adaptées, donc les espèces qui dépendent de la nourriture produite par la flore locale vont être décalées. Il y a aussi une remontée plus en altitude des espèces, donc un changement de l'étagement de la flore.
Les propositions du VEF pour y répondre.
Alors pour la question du changement climatique, c'est de nous tourner vers une production énergétique sans nucléaire et sans production de gaz à effet de serre. Il faut stabiliser notre consommation. Donc il faut trouver une alimentation énergétique durable et sans effet de serre. Donc on renonce aux centrales à base de combustible, donc à base d'essence, de pétrole ou de gaz, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et on renonce au nucléaire. Ensuite, on essaye de développer les transports publics, beaucoup moins consommateurs, on réduit la mobilité, et on voit qu'en agissant sur la production d'énergie, en agissant sur la mobilité, en agissant sur le bâtiment, où on peut faire énormément d'économies, et en agissant sur la nourriture, on arrive à avoir un train de vie qui ne dépasse pas la capacité de la planète.
Comment faire pour trouver des solutions qui soient positives pour le plus grand nombre de personnes pour s'adapter au changement climatique et protéger l'environnement ?
Alors, bon, c'est un débat politique. Hein. Tout le monde est d'accord pour les énergies renouvelables, mais lorsqu'on pose des éoliennes, tous les voisins s'y opposent. Tout le monde est contre le nucléaire, mais personne ne veut diminuer sa consommation électrique. Après, il y a un certain pouvoir nécessaire de la part des gouvernements à imposer les meilleures solutions possibles.
Pour contribuer à la protection des Alpes et à imaginer de bonnes solutions pour le futur.
Qui pourrait faire quoi ? Comme les premiers dans une société démocratique, les premiers intervenants, c'est quand même les gouvernements, c'est l'État. L'État qui est le premier responsable. La population, lorsqu'elle envoie lorsqu'elle envoie les élus du peuple au Parlement, ce sont eux qui votent les lois. Donc la population, les élus, le Parlement, le gouvernement et les organisations environnementales qui ont un travail de communication et de sensibilisation à faire, ainsi que les écoles.
Et la montagne n'est-elle pas assez grande et forte par rapport à nous pour se défendre toute seule ?
C'était le cas peut-être jusqu'au 19e siècle, peut-être même jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mais certainement depuis 70 ans, on pourrait dire que l'être humain est devenu une force géologique. Et il a vraiment maintenant, en fonction des outils technologiques, de la puissance technologique qu'il a aujourd'hui, vraiment la capacité de transformer profondément la nature. Et en tout cas, en tout ce qui est en termes de biodiversité, donc le monde des espèces, faune et flore, aussi en termes de paysage, l'être humain joue un rôle d'accélérateur de disparition de la biodiversité. Donc la nature, non, la nature n'est pas assez forte. En tout cas, sous ce plan-là, le plan de la protection des espèces, pour se défendre contre l'être humain.
Si on change notre mode de vie, si on commence à faire plus attention à l'environnement et faire quelque chose, si on commence à vraiment agir, est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer ou redevenir comme avant ? Redevenir comme avant, c'est possible ou pas ?
Mais je crois qu'il ne faut pas redevenir comme avant. Hein. Pour moi, la modernité, c'est de trouver un mode de vie qui soit harmonieux avec le monde dans lequel on est, un mode de vie aussi qui soit respectueux des autres gens sur la planète, et puis respectueux aussi des générations à venir. Donc des enfants qu'on va avoir, on n'a pas le droit moral de leur laisser des déchets nucléaires. C'est quand même incroyable que la responsabilité, on va transmettre pour des milliers de générations la charge, le fardeau de gérer des déchets nucléaires hautement dangereux pour la santé humaine. Je trouve que là, moralement, il y a un problème. Donc je pense que tout geste de bonne volonté est bienvenu, nécessaire, impératif, et que ça vaut la peine de le faire.
Revenir juste à l'alimentation, vous croyez si il y a plus de gens qui deviennent végétariens, ça s'améliore ou bien
oui,
c'est pas trop?
Non, l'alimentation, ben, on se rend compte justement que 30% des gaz à effet de serre viennent de l'agriculture,
ouais.
Notamment à cause des transports.
Mais vous croyez que les gens vont réagir ou pas? Ils vont comprendre ça dans longtemps ou même pas?
Moi, je pense qu'on a fait beaucoup d'incitations, on a beaucoup expliqué, on a souvent donné la possibilité aux gens de choisir, mais je pense que ça ne suffit pas pour des questions aussi urgentes et nécessaires qui touchent à l'intérêt public. Il faudrait avoir une démarche qui est plus contraignante et ne plus laisser le choix.
Mm-hmm.
On ne doit pas pouvoir épuiser une espèce.
Mm-hmm. Mais ouais. Qui pourrait faire ça? Qui pourrait...
Déjà au niveau national, il faut des législations qui nous aident. Il faudrait peut-être une gouvernance mondiale. Ça, c'est encore difficile à avoir. Hein. On voit déjà que l'ONU est assez impuissante pour beaucoup d'enjeux. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez contraignant par rapport aux impératifs qu'un développement durable nécessite pour la planète.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas assez d'accord parmi les gouvernements.
Oui, parce que pour eux, c'est une perte.
D'abord,
c'est l'argent.
C'est en tout cas une perte à court terme. Et puis, c'est surtout après des électeurs qui ne sont pas contents.
Oui.
Mm-hmm.
Il y a encore 20 ans, on comptait qu'il fallait à peu près... on comptait 20 mètres carrés par personne pour les appartements. Aujourd'hui, on est à 50 mètres carrés par personne pour les appartements. Parce que tout le monde veut des appartements plus grands. Autrefois, on vivait à 4 ou 5, dans un 3 pièces ou dans un 4 pièces. Aujourd'hui, qui faisait peut-être 70 mètres carrés. Aujourd'hui, si on n'a pas 120 mètres carrés, les gens ne sont pas contents. Ben, tout ça, c'est du sol qu'on grignote à la nature, qu'on garde pour nous. Quoi.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on est plus heureux dans un grand appartement? Est-ce que On peut organiser différemment les villes, faire plus d'espace ouvert pour tout le monde, mais moins d'espace pour le privé, parce qu'on a besoin d'une grande chambre, d'une petite chambre. Ça, c'est des discussions de société, quoi.
Donc, ce qui fait que ça ne change pas, c'est les...
Les intérêts privés, souvent, sont en contradiction avec l'intérêt commun, qui demande un certain effort de modération.
Parce qu'il y a souvent des personnes qui ne voient pas les choses en face, sinon juste quand...
C'est un personnel.
Ouais, et elles remarquent juste après quand les faits sont déjà... Bah, quand il s'est déjà produit.
Ouais, je pense que... Ouais, enfin, c'est pour le bien personnel, quoi, c'est pas...
C'est-à-dire que c'est souvent une réduction de notre confort.
Ouais.
Si on vous dit de prendre le train plutôt que d'aller en voiture... Ben, vous devez vous programmer sur les horaires du train, vous devez peut-être faire voyager une demi-heure de plus, peut-être attendre, transporter votre valise. C'est une perte de confort, mais c'est un gain pour la planète.
Oui, mais...
C'était donc Madame Marie-Thérèse Sangra, directrice du VVF Valais, que nous remercions encore du temps qu'elle nous a consacré.
On va bientôt vous laisser pour le dernier thème.
Eh oui, c'est malheureusement bientôt la fin.
Perso, je pense qu'ils sont plutôt contents, parce qu'on doit vraiment les ennuyer là. D'ailleurs, on profite de saluer notre classe qui nous écoute, et on espère que l'interview vous a intéressé et vous a appris un tas de choses.
On va vous lancer une musique et on va attaquer le dernier thème. À tout à l'heure.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.
Bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est la première fois de la semaine que je prends la parole. Donc, je suis Monsieur Zossou, le prof de ce magnifique groupe de Alplab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir tout le groupe qui est là. Chaque jour, il y a eu quelques élèves qui vous ont parlé. Aujourd'hui, c'est l'entier du groupe qui est réuni. C'est l'invité spécial, donc qui s'auto-invite. Et puis avec eux, on va faire un petit bilan de cette semaine qu'ils ont passée à la montagne et également de cette semaine radio, car ça a été un projet riche en émotions, riche en découvertes. Et donc, je vais, moi, aujourd'hui, faire le journaliste. Et les élèves sont les invités de cette rédaction. Donc, on va venir tout de suite sur la page des souvenirs, donc notre livre des souvenirs. Et quels sont, donc, mes chers élèves, quels sont les plus beaux souvenirs de cette expérience?
Alors, moi, personnellement, j'ai adoré la marche parce que, dans ces moments-là, on était tous au même niveau, on était tous égalitaires, et puis l'esprit de groupe, il était vraiment présent, il était presque palpable.
Fantastique. Alors, je me tourne vers Lucinda.
Alors, moi, j'ai adoré le paysage, je dis surtout quand on est allé au gîte des Voilans. On a passé sur beaucoup de ponts, c'était juste super, tout le paysage qui nous entourait et tout, et aussi, enfin, être avec les amis en montagne, la confiance qu'on a, enfin, c'était super.
C'était beau, hein. Alors, une qui a souffert par contre un peu plus à un certain moment, mais je crois qu'elle a quand même bien apprécié cet effort.
Ouais, moi je trouvais que les marches étaient difficiles, mais quand on arrivait au but, comme à la cabane des Becs des Bossons, après 10 heures de marche, on avait la sensation d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire.
Et puis, donc, moi, de mes plus beaux souvenirs, c'est évidemment le groupe, ce groupe soudé et solidaire. Et je passe le micro à Déborah.
Oui, c'était un groupe très soudé. On s'entraidait pendant les marches, on se motivait, puis on a eu des délires juste fantastiques pendant la nuit, par exemple. On essayait d'être discret. C'était fantastique.
Et Jeanne, je vois Jeanne ici.
Moi, c'était plus la radio, parce que c'était vraiment un truc de différent qu'on n'avait jamais fait, et ouais, c'était génial. Puis, moi, je suis passée mercredi, et on a reçu un message, par exemple, sur Facebook, qui disait qu'on assurait et tout, et c'est vraiment des choses qui font super plaisir, et qui prouvent qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, et voilà, c'était bien.
Donc, merci. Donc, on a eu 5 thèmes hein, pendant nos jours en montagne, et puis pendant cette semaine, donc on les a repris. Donc, on a parlé des barrages, on a parlé des glaciers, on a parlé de géologie, de risques, de tourisme, d'agriculture. Et tous ces thèmes, en fait, sont reliés par un fil conducteur qui sont les changements climatiques, évidemment, qui sont à la base de la réflexion de ce projet. Alors, entre tous ces thèmes, quel est le point commun? Qu'est-ce qui relie l'ensemble de ces thèmes?
Bah, c'est le climat. Le climat est en train de changer fortement et on est en grande partie responsable de tout ça à cause de tout de la pollution et tout ça. Et il faut agir. Donc il faut agir maintenant et il faut prendre des décisions importantes pour l'avenir. Sinon après on pourra plus rien faire et ce sera trop tard.
Ok, merci beaucoup Alessandro. Je vois que Alicia veut dire quelque chose.
Et pour pouvoir faire tous ces projets, ben, il faut avoir de l'argent. Et puis les gens, ils n'ont pas forcément envie ou bien la volonté de donner de l'argent pour sauver la planète, en gros, qui est notre planète et celle de nos descendants.
Ok, effectivement, l'argent, on a vu que c'était un point qui était au centre de tous les débats. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant qu'on pense un peu plus à l'environnement qu'à l'argent? Mais ça, je crois que toutes les personnes qu'on a rencontrées nous l'ont un peu dit. Alors, ce projet Alplab, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il vous a fait découvrir sur les Alpes. Je me tourne vers Camille, qui est ici.
Que partout où on va, il y a des infrastructures liées à l'homme. Des fois, on ne les voit pas, mais on sait qu'il y en a. Les Alpes sont maintenant des lieux très touristiques, pour l'été avec les randonneurs et l'hiver avec le ski. On construit de plus en plus de cabanes et plus de stations de ski, donc plus de barrages. Et avant, les cabanes, c'était pas pour des randonneurs, enfin des touristes, c'était plus pour les grands montagnards. Donc les Alpes, on a l'impression que c'est de la nature, mais elles sont presque artificielles. Mais d'un côté, sans que les hommes auraient touché la montagne, eh ben, on n'aurait jamais eu ce projet Alplab, donc c'est cool quand même qu'ils aient fait des infrastructures à la montagne.
Tous les gens qu'on a rencontrés étaient super sympas. Par exemple, notre guide Pascal qui nous a tous bien fait rigoler. Le futur, il faut que tous les gens qui vivent à la montagne, ils le décident ensemble. Il faudrait que tout le monde prenne en compte les intérêts des autres et essaye de s'arranger.
Ok, oui, ça, je crois qu'on a rencontré beaucoup de gens, des gens assez différents, hein, du directeur de l'office du tourisme à l'agriculteur, en passant par nos guides. Et puis, parmi tous ces gens, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui comptent plus, des personnes qui comptent moins dans les décisions qu'on peut prendre sur la montagne?
Alors, je pense que l'agriculteur, enfin, il peut pas décider vraiment de l'avenir, et aussi surtout l'environnement. Enfin, il se plie à nos besoins, parce que, enfin, à nos modifications qu'on lui fait, genre des barrages, enfin, faire des pistes de ski et tout ça. L'environnement ne peut pas se défendre, enfin, parce que si on lui demanderait, je pense pas qu'il dirait oui. Enfin, il essayerait quand même de se défendre.
Ok, donc il faudrait qu'on trouve le moyen de demander à l'environnement ce qu'il veut. Donc voilà, la prochaine fois, on prendra nos micros et on ira interviewer les arbres aussi, les cailloux. Mais c'est effectivement intéressant. Dans toutes les interviews qu'on a faites, est-ce qu'il y a une préoccupation que vous avez vue qui relie toutes les personnes qu'on a interrogées?
Alors oui, c'est l'eau. Qu'elle soit sous forme de pluie pour l'agriculture, de neige pour les stations de ski, d'eau liquide pour les barrages ou de glace pour les glaciers, parce que sans glaciers, il y aurait beaucoup moins d'eau pour tout le monde.
Ouais, donc effectivement, l'eau, on parle de l'eau comme de l'or. Hein. Bon, hier, mercredi, on nous a dit qu'on n'allait pas manquer d'eau, mais on sent bien que cette thématique, elle est au centre de toutes les interventions qu'on a fait. Alors, on va descendre maintenant à un niveau un peu plus personnel, et j'aimerais vous demander ce que, à votre niveau personnel, ce que ce projet, la participation à ce projet vous a apporté.
Alors, il m'a apporté beaucoup de moments inoubliables, et puis aussi des connaissances sur la montagne, sur le changement climatique, et aussi des chansons débiles.
Oh là, ben on peut entendre un petit exemple alors de chansons débiles.
Mon pantalon est décousu, si ça continue on verra tous. Mon pantalon qui est décousu, si ça continue on verra tous. Mon pantalon.
Voilà, merci. Alors, les auditeurs ne se rendent pas compte, mais une semaine comme ça, ça devient franchement, franchement très long. Alors, je vais à Déborah qui veut dire quelque chose.
Bah, comme Atina l'a dit, bien sûr, ça nous a apporté des connaissances, des musiques assez spéciales et beaucoup de souvenirs. Mais je pense qu'il y a aussi de la fierté d'avoir réussi à faire toute cette randonnée, parce que c'était pas forcément évident, c'était très dur parfois, parce que tout ce qu'il y avait à monter, surtout les montées, c'était vraiment, fallait avoir de la motivation, et puis ce groupe nous donnait de la motivation.
Alessandro, tu veux ajouter quelque chose?
Bah, moi, j'ai connu plein de personnes très sympathiques que je voyais, mais comme ça à l'école, mais que je connaissais pas plus en détail. Et puis ça, les connaître comme ça, et puis partager plein de choses ensemble, de bons souvenirs, bah, c'était très intéressant. Et puis on a fait d'excellentes choses. On a gravi des sommets et tout ça. Et tout ça, le faire ensemble, c'est vraiment génial.
Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous demander aussi au niveau des connaissances, en gros, ce que vous avez appris, parce qu'il y a peut-être le directeur qui nous écoute, qui a effectivement beaucoup œuvré pour qu'on puisse réaliser ce projet. Donc, j'aimerais bien que vous ayez quand même appris un petit quelque chose.
Alors moi, j'ai énormément appris des choses concernant la vie à la montagne. Et je ne savais pas que, par exemple, entre la cabane de Moiry et la cabane des Becs de Bosson, on changeait de continent, enfin de plaque tectonique. Et aussi, je ne me serais jamais imaginé qu'il y a des millions d'années, les Alpes étaient englouties sous l'eau. Quand on voit les Alpes, les sommets et tout, c'est juste presque impossible de s'imaginer qu'il y avait de l'eau à cet endroit-là.
C'était Camille. Odile?
Alors, pour moi, personnellement, Alplab m'a appris, en fait, tout. Parce que, pour moi, la montagne, c'était vraiment un élément du décor. Il était là, et je ne me posais pas la question de savoir d'où il venait et pourquoi il était là. Et du coup, ça m'a appris, par exemple, de quoi la montagne était faite et d'où elle venait.
Merci. Richard?
Moi aussi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses de la montagne. J'ai appris qu'il y avait différents types de glaciers. Il y avait les glaciers normaux, puis les glaciers rocheux. J'ai appris aussi d'autres mots, comme vocabulaire, par exemple. J'ai appris qu'est-ce qu'était le permafrost. C'est une plaque de glace qui recouvre le sol.
Ok, c'est bon, t'as passé le test. C'est bon. Juste une petite question maintenant. Évidemment, nous, on est à Lausanne, donc on est en ville, on est en plaine. Et puis, on s'intéresse à la montagne. Donc, ça peut sembler un peu paradoxal. Est-ce que c'est pas plutôt les gens de la montagne qui devraient faire une émission sur la montagne, puis nous, on se concentre sur la ville? Alors, je vais demander une petite réaction à Alicia.
La montagne, tout ce qu'on fait, toutes nos activités sont répercutées sur la montagne, et puis on a besoin de connaître la montagne pour pouvoir faire des choses.
Ok, Jeanne, tu veux ajouter quelque chose?
Tout ce qu'on va faire, tout ce que la montagne aura des répercussions en plaine. Et puis la montagne, c'est quand même un endroit où on veut, on va en vacances, où on va passer un week-end là-bas pour skier, se promener, se détendre. Et pour qu'on préserve ces moments, il faut quand même qu'on sache ce qui s'y passe.
Ok, merci beaucoup. Alors on a entendu beaucoup de problèmes quand même. C'était un peu une semaine à problèmes. Évidemment, si on le fait à l'école, c'est qu'on aimerait que les choses changent et puis qu'on ait une attitude peut-être différente maintenant qu'on est informé face au futur. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire?
Il faudra agir, bien évidemment, mais pas chacun dans son coin. Il faudra agir tous ensemble. C'est pas une personne qui va changer les choses. Il faut que tout le monde s'y mette, et pour que tout le monde s'y mette, il faut régler certaines choses, comme la problématique de l'argent, par exemple. Et si on change ça, je pense qu'on peut changer énormément de choses.
Ok, merci. Je vois Camille, voilà.
Je pense qu'il faudrait plus parler aux personnes qui habitent en ville de ce qui se passe actuellement en montagne. Comme ça, elles seraient au courant de la vie de l'agriculteur en montagne et pourraient les aider au niveau de l'argent. Je pense aussi que dans les discussions futures, il faudrait que tout le monde ait la même importance. Par exemple, qu'un chef d'entreprise soit vu comme une personne qui dirige une cabane. Les gens en ville ne se rendent pas tellement compte que c'est dur de travailler en montagne. Et je suis sûre que si l'on propose d'échanger les rôles, comme celui qui habite en ville ne supporterait juste pas de ce que vit le montagnard, et celui qui travaille dans une cabane doit faire attention à ce qui concerne l'eau courante, le sanitaire, les cuisines, etc. Tandis que toutes les petites choses qui sont très simples à faire dans la vie de celui qui vit en ville. Donc pourquoi l'un c'est difficile et l'autre c'est facile? Donc faudrait juste trouver le juste milieu.
Ok, merci. En même temps, je suis pas sûr que les gens qui ont choisi de travailler en montagne voudraient venir 5 minutes en ville. on a fait de la radio aussi cette semaine. On a choisi ce média pour parler aux autres élèves. Qu'est-ce que cette expérience de la radio vous a amené? Alors, je sais pas qui veut prendre la parole.
C'est une expérience unique, on va jamais pouvoir le refaire une autre fois. C'était un énorme travail pour le prof et pour nous, mais c'était bien, on l'a bien fait et tout ça.
Alessandro?
Moi, ça a permis de découvrir un nouveau métier qui a l'air simple à la base, mais qui est assez compliqué.
Le métier de quoi?
De radio, faire de la radio en ligne et tout ça. Il y a le stress que ça apporte de faire ça, et c'est vraiment super d'avoir découvert ça ensemble.
Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur cette expérience radiophonique? Comme j'ai trouvé que vous étiez vraiment bien, donc je me réjouis de voir si des gens nous ont écoutés autres que vos parents. Alors pour conclure, je crois qu'il y a Jeanne qui voulait faire un petit bilan personnel. Je vais demander un devoir, donc un bilan personnel sur ce qu'on a découvert.
Donc on a découvert que la montagne, c'était vraiment un système très très complexe, et que tous les débats qui sont faits autour de la montagne soient des débats qui se font dans le respect et dans l'écoute, parce que tout le monde a son mot à dire et tout le monde a quelque chose à y gagner. Et les choix qui seront faits, ce ne sera pas vraiment que des choix techniques, et il y aura quand même pas mal de choix politiques.
Ok, merci beaucoup. Qui veut ajouter quelque chose? Odile?
En gros, ce moment à la montagne, c'était un moment magique. Rien que l'ambiance, l'effort, se surpasser et l'esprit de groupe qu'on avait ensemble, il était vraiment bien. Et puis, je voudrais remercier aussi les auditeurs qui nous écoutent. Et puis, toute l'équipe Alplab. J'ai vraiment passé un super moment.
Ok, merci beaucoup. Alors, on peut s'applaudir, allez. Ouais. Voilà, moi j'ai passé une magnifique semaine et puis on va faire après la liste des remerciements. Mais je vous dis à l'année prochaine.
Radio.
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 Alors avant de terminer cette super semaine, on doit passer aux remerciements. Il y en a pas mal. Alors d'abord, merci à Denis Badan et à l'équipe de Radio Bus.
Merci au magasin Bachely pour l'équipement.
Merci à la fondation Éducation 21 pour le soutien financier.
Merci à la fondation pour le développement durable en montagne pour le soutien en ressources.
Merci à nos guides Bertrand, Alain et Pascal. Et à nos profs, M. Soso et M. Mirabilet.
Au directeur, M. Jean-François Borgeot, pour son écoute et son indéfectible soutien, et aux doyens de Béthusie pour leur aide et leur disponibilité.
Merci à Mme Annick Véraud, qui nous a accompagnés dans notre sortie d'entraînement à Luant. Merci à tous nos invités, et j'aimerais quand même dire un grand merci à M. Zosso, car sans lui, tout cela n'aurait jamais été possible.
Et un grand merci à tous nos auditeurs.
Et merci aux élèves.
Voilà, on finit notre semaine. À bientôt pour une nouvelle aventure en montagne.
Et vous avez compris, pour un autre futur, il faut se bouger.